Gloire à Dieu, nous allons prier pour recommander ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de nous conduire, Seigneur, pendant ce temps. Prends le contrôle de toutes choses, dirige-nous, parle-nous, Seigneur. Nous voulons recevoir ta pensée, nous voulons être instruits, Seigneur, par toi. Au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, ouvre notre entendement pour que nous puissions saisir ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 14. Donc nous faisons une pause en ce qui concerne Béréen l'explorateur. Nous sommes dans le livre de Jérémie où nous voyons la patience de Dieu. Si on peut baisser un petit peu dans les retours, il y a un Larsen qui... Nous voyons dans le livre de Jérémie la patience de Dieu envers son peuple. Mais au-delà de la patience, nous voyons l'amour de Dieu qui veut sauver. Il est écrit dans 2 Pierre 3 que Dieu prend le temps, non pas parce qu'il ne peut pas agir, mais parce qu'il veut que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Et quelquefois, le processus du cœur humain est très complexe. Voilà pourquoi Dieu prend le temps, puisque le cœur de l'homme, que nous sommes les humains, nous sommes très compliqués. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est construire quelque chose de solide, sans aucune contrainte, mais par amour. Vous savez, lorsque le fils prodigue est parti, le père l'a laissé partir, et il est allé, il a souffert, mais il a eu besoin de cette souffrance-là pour lui-même revenir au Père avec de bonnes dispositions. Peut-être que le père aurait cherché à le retenir de façon coercitive, de façon forcée, mais il aurait retenu physiquement, mais le cœur n'était pas. Il serait certainement en colère, comme beaucoup qui vivent avec leurs parents par dépit, puisqu'il attend juste la première occasion pour partir. Et Dieu ne veut pas une relation forcée, Dieu veut une relation consenti. Et lorsque le fils est revenu, il a dit à son père, « Mon père, je me suis mal comporté. J'ai déshonoré le ciel. Je t'ai déshonoré. Alors je reviens. » Il dit, « Ne me traite même pas comme ton serviteur, comme ton fils. Traite-moi, pardon, comme ton serviteur. » Et le processus humain est complexe. Alors, ce n'est pas notre sujet. Nous revenons sur Luc 14, à partir du verset 25. Luc 14, à partir du verset 25. Donc je lis et je rappelle qu'on a la possibilité de pouvoir interagir. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin ?» Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonne-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, et on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà notre passage d'introduction de notre temps d'étude. Alors, en méditant ce passage, j'ai été interpellé. On dit verset 25, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Et il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un veut, viens avec moi, s'il ne hait pas son père, sa mère. » Donc, il continue à enseigner. Alors, je me suis posé la question, Jésus est entouré d'une foule. Et il se retourne et finalement, il... comment dire ça? Il dit à la foule, en réalité, ce qu'implique le suivre. Alors, je me suis posé la question, quel est l'objectif du Seigneur en faisant cela? Vous savez, naturellement, l'humain que nous sommes, les humains que nous sommes, nous aimons être approuvés par des gens, avoir un discours qui harangue des foules, qui attire des gens. Les partis politiques, c'est tout ce qu'ils font. Les musiciens, tout ce qui se fait dans ce monde, l'objectif, c'est de pouvoir séduire pour attirer le maximum de personnes. Alors Jésus, lui, il fait un contre-pied. Il fait différemment. Alors la question qui m'est venue, c'est quel est l'objectif du Seigneur en parlant de la sorte? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? C'est un partage, comme d'habitude. Quel est l'objectif du Seigneur? Oui, le micro, il y a quelqu'un qui... Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, Gabriel. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est une étude. On explore la parole de Dieu ensemble. Oui, quel est l'objectif du Seigneur?
L'objectif du Seigneur, c'est de nous faire comprendre qu'avant de s'engager avec lui, faut aussi voir les conséquences, en quelque sorte.
C'est ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Normalement, autant que nous sommes, on doit avoir autant d'avis, hein. Ou alors dit différemment, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Donc, le bien-aimé dit que Jésus attire l'attention sur le fait de le suivre a des conséquences qu'il ne faut pas négliger. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Quel est l'objectif de Jésus? Oui, toujours Gabriel. Quel est l'objectif? Bien-aimé, c'est un partage, il n'y a pas de... C'est pas un cours magistral.
C'est de réfléchir à deux fois avant de s'engager, pour savoir si on va aller jusqu'au bout.
Très bien, très bien. S'il y a des questions ou des objections, on peut se manifester. Donc, deuxième chose, c'est... Comment tu as dit?
C'est de réfléchir à deux fois avant de s'engager pour savoir si on va aller jusqu'au bout. Pour voilà, savoir donc, si on est prêt jusqu'à aller...
Donc, première chose, on a dit qu'il y a des conséquences dans l'engagement qu'on fait, qu'on prend. Deuxième chose, c'est évaluer les moyens pour voir si, en s'engageant, je vais aller jusqu'au bout. Oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Mais dans tout ça, quel est l'objectif? Qu'est-ce que le Seigneur cherche? Est-ce qu'il cherche à chasser ces gens-là? Bon, je nous mets sur les pistes. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut? On a donné deux choses, donc il y a des conséquences. Il y a aussi le fait de savoir que bah, quand tu commences, bah, autant aller jusqu'au bout, autant être sérieux, quoi. Ne commence pas pour rien. Oui?
Nous montrer aussi que Dieu passe en priorité sur tout.
Nous montrer que Dieu passe en priorité sur tout, c'est-à-dire, où est-ce que tu vois ça? Oui, donc quand il dit « si quelqu'un vient avec moi, vient à moi, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, c'est par rapport à ça, sa propre vie ne peut être mon disciple ?» D'accord.
Le Seigneur montre aussi qu'il ne cherche pas des adhérents, il cherche des gens qui, en fait, il veut sauver, il n'est pas là pour avoir des adhérents, des personnes qui le suivent pour ses miracles ou quoi que ce soit, mais pour vraiment avoir un cœur à cœur avec lui.
Ok. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter ?
Oui, moi je trouve que le mot haïr, quand même, il est assez fort. Parce que d'un côté, il dit honore ton père et ta mère, et là, il dit de haïr sa mère, son père. Donc je ne comprends pas trop.
Oui, en fait, là, c'est une vraie question hein, que tu poses. En fait, c'est une question de traduction. En fait, il y a des versions qui disent le mot haïr, dans d'autres traductions, c'est aimer moins. Et là, c'est la traduction en français telle que nous l'avons ici, c'est haïr, mais c'est aimer moins. Mais il y a encore une autre explication qui est un peu compliquée, je ne voulais pas en parler, qui dit que l'amour que tu dois avoir pour Dieu doit être tellement fort que l'amour que tu as pour les humains, en comparaison, c'est comme si c'était de la haine. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est en fait l'amour que tu as pour Dieu est tellement fort qu'il n'a pas de comparable. Or, nous savons que, comme dans le monde ils disent, hein, le sentiment, l'opposé de l'amour, le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Hein. Souvent, les gens qui s'aiment beaucoup, très vite, quand ils ne s'aiment plus, ils ne s'aiment plus. Hein. On voit avec les divorces, on voit avec les meilleurs amis qui s'entendaient très bien. Quand il y a la coupure, c'est l'opposé. En fait, c'est un peu cette idée-là de soit on est dans un pôle, ou alors on ne l'est pas, on est à l'opposé. Voilà. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas de double mesure. Quand on aime Dieu, on ne peut pas aimer autre chose. Matthieu 6 nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu et maman, puisque l'homme, en réalité, il est attaché à cela. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui.
C'est une question internet. Bref, une intervention internet. Jésus cherche à construire une relation unique et solide avec celui qui s'engage avec lui.
Ah, tu as dit que c'était une question, c'est une affirmation ?
Non, ce n'est pas une question. C'est...
C'est une affirmation. Ok, d'accord. Okay. Donc Jésus cherche
à construire une relation unique et solide avec celui qui s'engage avec lui.
Voilà, Jésus cherche... Donc toutes les réponses qui ont été données là sont correctes. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Oui, Sœur Chantal.
Oui, alors donc le Seigneur nous dit de calculer la dépense, c'est-à-dire de faire un choix, mais de le faire en toute bonne conscience et d'aller jusqu'au bout, au point qu'il nous compare par rapport au sel. Si on perd le sel perd sa saveur, il est jeté en fait. Donc on doit calculer pour suivre Jésus jusqu'au bout, mais vraiment quoi, sans perdre son premier amour, en lui restant fidèle totalement, pas en restant juste un disciple qui suit parce que il a choisi de suivre et puis il continue à suivre parce qu'il l'a choisi au début, mais ce doit être un renouvellement de chaque jour en fait.
Amen, amen. Alors comme on n'a pas le temps, on va avancer. Tout ce qui a été dit est vrai. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est... Bon, il y a beaucoup de choses, mais je vais en citer quelques-unes. C'est que, vous voyez, Jésus cherche à clarifier la démarche de chacun. À clarifier aussi ce qu'il est venu faire. Vous savez, lorsque tu as affaire à un commercial, moi, quand j'étais étudiant à la fac... On avait des petits boulots à l'OFUP, je ne sais pas si ça existe encore, l'Office universitaire de presse, et on vendait des abonnements, des magazines aux gens, et on nous apprenait à convaincre les gens, à faire acheter quelque chose, même s'il n'en a pas besoin, puisqu'on l'a tellement convaincu, on l'a tellement forcé même pour qu'il puisse acheter, mais sans réellement mesurer la teneur. Et c'est ce qui nous arrive souvent quand tu souscris à l'assurance, quand tu souscris à ceci ou cela. Il y a beaucoup de choses dans les clauses qui ne sont pas dites. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est en parlant avec un avocat qui va te dire « Non, mais tu as droit à ci. Avec ton assurance, tu as droit. » Mais l'assurance, lui, tant qu'il peut dépenser moins et t'en dire moins, il s'en porte mieux. Voilà. Mais là, Jésus, vous voyez, il est dans une démarche totalement différente. Il clarifie les choses. Il dit « Écoutez, Jean 2, 22 nous dit qu'il y avait une grande foule pour ceux qui veulent lire, hein, pour leur lecture. Une foule suivait Jésus et on dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Pourquoi ? Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc Jésus lui connaît l'intention de chacun. Alors il dit, si vous voulez me suivre, sachez une chose. C'est que il faut être prêt à renoncer à sa vie, à tout ce qu'on a de précieux, tout ce qu'on aime. Deuxième chose, le renoncement ne suffit pas. Il faut être prêt à souffrir aussi pour lui. Ah, c'est plus la même chose. Donc renoncer déjà pour quelqu'un, renoncer à ce qu'il aime, là, ce qu'il cite là, c'est pas évident. Mais il dit non seulement tu dois être prêt à renoncer, mais tu dois être prêt aussi, en me suivant, à souffrir pour ma cause. Est-ce que tu veux ou pas? Donc Jésus clarifie les choses avec les gens qui le suivent. Et nous pouvons lire rapidement Amos 3, 3. Amos 3. Nous lisons dans Amos 3, 3. C'est un verset qui est connu hein, et qui est facile à retenir. La Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Voilà ce que la Bible nous dit. « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont mis d'accord ?» Et là, Jésus, c'est ça le travail qu'il fait. Il dit « Écoutez, vous voulez venir avec moi ? Alors, on va se mettre d'accord sur la relation qui va nous engager. » Comme ça, le jour où viendront les difficultés, vous ne direz pas « Ah non, mais je n'étais pas au courant. On ne m'a pas prévenu. Ça, ce n'était pas prévu. » Vous savez, parfois, quand tu achètes une voiture ou autre chose, il y a ce qu'on appelle des vices cachées. Celui qui te vend, il sait qu'il y a un problème. Bon, quand tu essaies la voiture, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas de souci. Parfois, il te fait faire un petit tour. Et souvent, ils sont stratégiques quand c'est comme ça. Hein. Il te trouble un peu la tête. Ta tête est ailleurs, t'es distrait. Et à ce moment-là, il te vend et puis il disparaît. Voilà. Et ensuite, tu te retrouves dans des problèmes et tu te rends compte que tu t'es fait avoir. Et là, Jésus dit non, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord, sans être concertés? Et c'est ça le travail que nous voulons faire. Notre étude d'aujourd'hui et certainement de la semaine prochaine, nous l'avons intitulée « En devenant chrétien ». Trois points de suspension. Alors, « En devenant chrétien », c'est quoi? C'est que, bien aimé, vous savez, beaucoup d'entre nous, dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, nous avons des attitudes, des personnes qui semblent ne pas prendre conscience de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Quand les situations nous arrivent, les réactions que nous avons, vous savez, en français, on dit un homme averti en vaut combien? Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme averti en vaut deux. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, hein, les gens qui maîtrisent la langue de Molière? Un homme averti en vaut deux, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui? Sandrine, derrière? Non, 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 attends le micro.
On est doublement prudent.
On est doublement prudent, voilà. Puisqu'on t'a averti, donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein. On a parlé beaucoup de la vigilance, de la peur, de la méfiance. Voilà, quand tu es averti, forcément, tu t'attends à ce que, bon, la chose arrive. Et tu adaptes aussi ton attitude par rapport à ce qui t'a été dit. Mais si on t'avertit, et que, un exemple, je me rappelle quand on était au lycée, hein, le prof venait donner ou même à la fac, très souvent à la fac même, il donnait un exercice, il dit ça tombera à l'examen. Mais vous savez, il dit tellement que ça tombera à l'examen pour beaucoup que finalement, mais celui qui est sérieux, lui, il va mettre une marque à cet exercice-là. Et souvent, parfois, à l'examen, c'est exactement le même exercice. Il a peut-être changé un ou deux chiffres. Mais c'est le même exercice qui revient. Alors celui qui ne révise pas, qui n'apprend pas, eh ben il va se gratter la tête. Hein. Mais celui qui a appris, ah ben ouais. Parce qu'il sait que ça allait revenir. Voilà. Il a été prévenu et il s'est adapté en conséquence. Et quelquefois, nous chrétiens, nous avons des attitudes que nous manifestons dans la vie chrétienne qui peuvent laisser croire que nous n'avons pas été attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Alors, nous allons prendre acte 20. Acte au chapitre 20. Et je rappelle, s'il y a des interventions, ne pas hésiter à les partager pour notre édification commune. Donc, le thème, on a intitulé « En devenant chrétien ». Et ensuite, nous allons voir différents points que nous allons traiter. Donc, acte au chapitre 20, à partir du verset 17. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Alors, Paul explique qu'il doit quitter les disciples là où il est et il doit aller à Jérusalem. Et il dit qu'il ne sait pas ce qu'il attend à Jérusalem. Mais il dit au verset 23, « Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul dit, je veux me rendre à Jérusalem et je sais qu'il y a des tribulations, il y a des souffrances, il y a des difficultés qui sont devant moi. Mais il dit, je vais m'y rendre. Et on se rappelle même qu'il y avait un prophète qui était très connu à l'époque, Agabus, qui a prophétisé clairement à Paul en disant « Ne pars pas à Jérusalem !» Et Paul décide quand même de partir. Vous savez, aujourd'hui, un prophète comme ça, sérieux, hein, de renom, te parle comme ça, je pense que tu revois ton agenda. Hein. Tu dis « Non, bon, allez, c'est pas la volonté de Dieu. » Mais là, Agabus lui parle, et là, nous l'avons pas lu, mais il dit « Le Saint-Esprit l'a averti en disant qu'il y a des difficultés qui sont devant toi. » Et Paul dit « J'y vais quand même. » Alors, le premier point que j'ai noté, après on passe à la question, le premier point que j'ai noté, c'est qu'en devenant chrétien bien-aimé, on doit accepter la pensée de mourir. De mourir à soi-même. De mourir à ce monde. Accepter. J'ai pris cet exemple puisque c'est pas quelque chose où il y a le hasard. Non, bien aimé, Paul est averti par Agabus. Et là, il dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Je sais que là où je vais à la mort. Il dit, mais est-ce que je dois regarder à ma vie, à moi, ou je dois regarder à la mission que le Seigneur m'a donnée? La mission du Seigneur est plus importante que ma propre personne. Bien-aimé, vous savez, en méditant ça tout à l'heure, je me suis dit, mais que le Seigneur nous fasse grâce pour comprendre ces choses. Comprendre que le chrétien doit accepter cette idée de mourir. Je laisse d'abord l'intervention. Il y avait une intervention, non?
Oui, pasteur. Justement, c'est le sujet de en devenant chrétien. Je me souviens que quand je vais à l'évangélisation, je dis aux gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur que le Seigneur a tout pris sur la croix, il est mort, il a pris nos péchés, et tout ce qui leur reste à faire, c'est accepter le salut que Jésus donne. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez donné un exemple dans le cas où si quelqu'un te vend une assurance, elle ne te dit pas derrière tout ce qu'il y a dans les clauses. Et après, c'est soit dans le but de te cacher des choses. Et nous, dans le cas d'évangélisation, si on ne dit pas aux gens en devenant chrétien, la personne, on dit à la personne, il faut accepter également de mourir pour le Christ et tout là, quand on ne le dit pas, parce que vous le dites là, si nous ne le disons pas aux gens, ce serait comme si on leur montait à eux que voilà, tu deviens chrétien, tu acceptes simplement le salut de Christ, et plus tard, ils doivent être confrontés au fait que tu as également à donner ta vie pour le Seigneur, à souffrir derrière, et ces choses-là, pourquoi on ne leur dit pas directement pendant le temps d'évangélisation que voilà, il y a ça, 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 ça?
Oui, pourquoi on ne dit pas? Parce qu'il n'y a pas une fiche type d'évangélisation. L'évangélisation, c'est conduit par l'Esprit. Tu parles comme le Seigneur te conduit. Et je pense qu'on a déjà parlé de ça. Si le Seigneur te conduit dans la discussion à parler du jugement, tu parles du jugement. Si le Seigneur te conduit à parler de son amour, tu parles de son amour. Si le Seigneur te conduit à dire que Jésus t'aime, tu dis Jésus t'aime. En fait, le problème, c'est que, et c'est une bonne question que tu poses, après la sœur Mireille intervient, bien aimé, comprenons que le salut, Apocalypse 5 dit, appartient à Dieu. C'est Dieu qui touche. Ce ne sont pas nos développements qu'on va faire qui vont toucher la personne. Non, c'est Dieu qui touche. Et donc, il faut être... Comme Paul dit là, il dit, convaincu que le Saint-Esprit, voilà, donc il dit, le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a averti, mais de l'autre côté, je sais que c'est ma mission. Vous savez, dans Jean 12, 24, au-dessus, avant le verset 24, on dit à Jésus, on te cherche. Jésus dit, ah, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié est arrivée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant mon âme est troublée. Mais il rajoute quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois reculer? Ou est-ce que je dois avancer? Il dit non. Jean 12, 24, je l'ai prévu d'ailleurs. Il dit, le grain de blé quand il tombe à terre, s'il reste là, il ne produit rien. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Voilà. Donc, tout ça pour dire, il faut qu'on ait en tête, bien aimé, que l'évangélisation, nous, on est juste des instruments. Comme j'ai joué à la guitare tout à l'heure, vous voyez la guitare, elle est là. On peut la laisser là pendant 10 ans, elle ne bougera pas. Mais elle produira un son quand quelqu'un viendra, va faire do, ça fera do. Donc le piano tel qu'il est là, il peut rester, il ne bougera pas. Et nous, nous sommes comme ça par rapport à Dieu. Nous sommes des instruments. Il faut qu'on ait en tête que c'est Dieu qui touche les cœurs. Puisque si on a en tête que c'est moi, on va venir avec des fiches pour dire non, il n'y a aucune fiche. Hein, c'est en fonction de la discussion que tu as avec la personne. Voilà, tu crois que voilà, la parole que tu dis, elle est à propos. Vous savez, regardez les conversations de Jésus avec les gens. Prenons exemple sur Jésus. Jésus rencontre Nicodème. Nicodème lui dit, mais toi, tu es réellement de Dieu, puisque ce que tu fais montre que... Jésus lui dit, écoute, Nicodème, si tu veux aller au ciel, il faut naître de nouveau. Je pense que nos spécialistes d'évangélisation ici vont te dire quoi? Mais non, mais il comprend pas ce que... Non, mais Jésus sait que Nicodème comprend. Parce que Nicodème dit, mais comment je vais faire, moi, à mon âge, rentrer dans le... Jésus dit, Nicodème, arrête de tourner en rond. Toi, tu es docteur d'Israël, tu ne sais pas. En réalité, il a compris, mais il tourne en rond. En fait, regardez toutes les conversations de Jésus avec les gens, vous allez voir, on a l'impression qu'il tape à côté. Mais en réalité, il parle de ce que l'Esprit le met à cœur. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas de méthode. Il y a des discussions qui peuvent aller sur le point du jugement, il y a des discussions qui peuvent aller sur le point de l'amour. Ça suffit pour toucher une personne. On n'est pas obligé de dire, bon, point 1, l'amour de Dieu. Point 2, il faut savoir qu'il y a aussi le... Point 3, il faut savoir aussi qu'il y a les... Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On présente Jésus. On dit, Jésus est venu sur la terre, il veut te sauver. Est-ce que tu crois en Jésus? Voilà. Tu crois que ce que la personne va dire en répondant, Dieu va mettre tout ce pacte-là dans son cœur. Voilà. Donc, on n'a pas de méthode type à employer. Sœur Mireille, oui, tu peux rajouter.
Oui, je voulais ajouter juste que, en fait, nous, dans l'évangélisation, on va chercher nos frères. Et ce qui veut dire que si nous allons chercher nos frères, ça veut dire que lorsqu'ils vont recevoir le Seigneur dans leur vie, ils vont accepter le chemin de Dieu. Et le Seigneur fera la différence, le Saint-Esprit fera la différence dans leur cœur. Quel que soit ce que Dieu leur demandera, ils vont suivre, parce que ce sont nos frères, ce sont les enfants de Dieu. Donc ils vont suivre ce chemin. Donc nous, en tant que dans l'évangélisation, on n'a pas à s'occuper de... On n'est pas là pour faire des discours. On est juste là dans l'objectif de parler. Et ceux qui sont nos frères vont comprendre ce que Dieu attend d'eux et ils vont accepter ce chemin. Et c'est tout. En fait, moi, c'est ce que je me dis quand je vais à la rencontre des gens. Je me dis, le Saint-Esprit fera le reste dans leur cœur et voilà.
Amen, amen, amen. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut avoir en tête que moi, je suis juste un instrument et Dieu m'utilise comme il veut. Vous savez, des fois... Mais ça se passe aussi même dans les prédications. Hein. Parfois, tu prêches, quelqu'un te dit « J'ai été touché par ce que tu as dit ci, tu as dit ci. » Toi-même qui as prêché, tu ne te rappelles même pas l'avoir dit ça. Mais lui, il a entendu ça et ça l'a touché. Bien-aimé, vous savez, c'est un mystère. La parole de Dieu est un mystère. Là, tel qu'on parle comme ça, peut-être que quelqu'un qui nous suit, lui, il comprend autre chose. Et c'est ça qui le touche. Donc, il faut vraiment avoir cette certitude que c'est Dieu qui touche. Quand tu as cette certitude-là, alors, tu ne vas pas trembler. Tu vas dire ce que tu as à dire. On va t'insulter, tu restes calme, tu as dit ce que tu as à dire. C'est tout. Après, Marc 4 nous dit, la semence, quand elle est semée, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'est-ce qui se passe? La semence va faire son travail. Mais nous, on ne le voit pas. C'est ça le problème. On aimerait, quand tu parles à quelqu'un, tout de suite, ils disent « Ah, je suis convaincu, mais ce n'est pas le cas. » Ce n'est pas le cas. Je pense que tu es mieux placé pour témoigner que ça n'a pas été le cas au premier coup. Voilà. Oui.
J'ai une question par rapport par exemple, des chrétiens qui sont appelés à devenir missionnaires. S'ils refusent, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur leur salut?
Non, sur le salut... Je ne pense pas. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Maintenant, dans le plan de Dieu, il y aura des conséquences puisque ton appel, tes bénédictions, tout ce que Dieu te donne, c'est lié aussi à ton appel. Donc si tu ne respectes pas cela, tu peux avoir des difficultés. Maintenant, ces difficultés-là peuvent t'emmener à être parfois nonchalant, même par rapport à ton salut. Mais il faut comprendre que quand Dieu t'arme pour quelque chose, il te donne le nécessaire. Et quand il te donne le nécessaire, il faut savoir aussi que l'ennemi en face, lui, il t'attaque en fonction de ce que tu as. Ça, c'est une réalité. Hein. L'ennemi, vous savez, les bandits de quartier, quand ils s'attaquent à la police, ils ne vont pas s'attaquer à la police comme à un civil. Hein, parce qu'il sait que la police est potentiellement armée. Donc, il va attaquer aussi avec une véhémence, puisque c'est lui ou moi. Donc, c'est une réalité. Maintenant, Dieu ne manque pas de ressources. Si tu ne veux pas, il prendra quelqu'un d'autre. On l'a vu avec... Moïse, Aaron, on a vu encore avec d'autres personnes. Mais malheureusement, qui est perdant? C'est toi qui es perdant. Et ce qui fait que, vous savez, c'est ce qu'on voit dans le milieu chrétien. Hein. Il y a beaucoup qui ont des appels, mais qui ne fonctionnent pas dans cet appel-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu ne fonctionnes pas dans ton appel, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas devenir un journaliste. Quelqu'un qui est appelé à jouer un instrument et qui ne le fait pas parce que c'est trop difficile. Mais vous savez, naturellement, puisqu'il a le don, il saura que ah, Jean-Luc a fait une fausse note. Mais lui-même, il ne fait pas. Mais il est spécialiste pour dire ah, l'autre, il s'est trompé. Oh là là, oui, mais toi-même, oh, comment tu arrives à reconnaître ça? Parce que tu as ce don-là que tu as reçu. Et c'est ce don-là qui fait que tu reconnais, mais bien aimé, il y a une différence entre commenter et faire. Hein. C'est... Il y a une vraie différence. Oui, il y a une intervention.
Oui, je voulais rebondir sur l'intervention de Rodrigue. Je pense que c'est important de faire la distinction entre le fait de ne pas dire à la personne que l'on évangélise ou autre, hein, qui vient au Seigneur, de ne pas dire que... voilà, de taire le fait qu'il risque d'y avoir des problèmes, et le fait aussi de le laisser vivre ces choses-là en temps voulu. Ça me fait penser à lorsqu'on est enfant, si on nous disait à l'âge de 5-6 ans ce qui nous attend, un, deux, qu'il risque d'y avoir aussi nos parents qui partent avant nous, enfin voilà, si on avait le choix, très honnêtement, on dirait non mais finalement moi je veux pas naître quoi. Donc, et pourtant, il y a toute la beauté aussi de grandir en famille. Enfin, voilà. Donc, en fait, la marche avec Jésus, la personne, il va y avoir des changements dans sa vie, ça va être glorieux, mais il va y avoir des étapes, il va y avoir des frustrations, etc. Donc, je pense que, enfin, voilà, j'avais compris ce qu'il disait, de dire, est-ce qu'on ne ment pas en ne disant pas? Mais finalement, on ne va pas lui dire non plus, tu vas être KO d'ici une semaine.
Non, c'est pour ça que j'ai répondu. Ce n'est pas question de mentir ou pas, c'est comment tu es conduit à parler à la personne. C'est tout. Puisque dans ce cas-là, tu vas commencer à dire, bon, j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça. Non, vous savez, il y a des gens, juste lui dire, Jésus t'aime, ça suffit. Jésus t'aime. Dans ce monde-là, quelqu'un te dit, quelqu'un t'aime, c'est... rien que ça, ça suffit. Voilà. Tu vas pas forcément aller... Non, on parle, on dit ce que Dieu a à nous dire. C'est ça. En tout cas, est-ce que c'est lié à la maturité? Je sais pas. Mais comprenons bien, aimé, le salut, acte 5, appartient à Dieu. Le salut ne nous appartient pas. C'est pas parce que je me rappelle Richard Umbrandt qui témoigne en disant qu'il lui il est juif et il témoigne qu'il discutait avec un autre juif et lui il connaît la Torah, il connaît la Bible puisqu'il est chrétien et il dit qu'il a laminé l'autre juif en face de lui, il a fait taire. Vous savez, c'était des grands sachants, des grands connaisseurs. Il a fait taire l'autre en face de lui. Mais quand il est parti, il dit qu'il était triste. Pourtant, il a gagné, entre guillemets, hein, le débat. Mais il était triste, pourquoi? Parce que son attitude a braqué encore plus l'autre. Puisque l'autre s'est senti diminué, s'est senti rabaissé, s'est senti humilié. Et c'est là qu'il dit, non, en fait, je suis allé dans ce débat-là pour montrer que j'avais la connaissance. Mais maintenant, il dit, avec la sagesse et l'intelligence, je comprends que il suffit de dire, vous savez combien d'occasions Jésus a eu où les gens viennent le voir pour dire, maître, qu'est-ce que... Mais quelles sont les réponses que Jésus donne? Non, cette femme a attrapé en flagrant délit. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, vous avez raison. Maintenant, celui qui n'a pas de péché, qu'il fasse. Oui, Jésus n'est pas parti dans... Et après, il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Va et ne pêche plus. Jésus aurait pu dire aussi, maintenant, tu sais, hein, tu auras des tentations. Hein, tu auras... Non, donc quand il dit Jésus... Va et ne pêche plus. Il y a la puissance dans ces paroles-là pour que le Saint-Esprit, quand la femme arrive à vouloir pêcher, que le Saint-Esprit la reprenne. Maintenant, c'est le choix individuel. Mais voilà. Sinon, on va vouloir tout circonscrire. Vous savez, c'est ce que Paul dit. Il dit, moi je pars, je ne veux plus vous voir. Mais je fais confiance en Dieu puisque c'est l'œuvre de Dieu. Dieu continuera ce qu'il a fait. Mais il y a aussi dans Acte 16, verset 22, il dit, c'est par beaucoup de tribulations et de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. En fait, il n'y a pas une méthode. Non, il y a des moments où on dit les choses, il y a des moments où on dit juste ce qu'il faut. Et parfois, on ne dit même pas. C'est notre attitude de lumière du monde qui va interpeller l'autre en face. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. On continue. Donc, le premier point, c'était, donc, en devenant chrétien, on doit accepter, bien aimé, l'idée de mourir à soi. C'est ce que Paul dit là. Il dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Celui qui a la Bible, celui qui a le micro, il peut nous lire Galates 2 au chapitre 20. En devenant chrétien, Galates 2, 20, celui qui a le micro peut nous lire. Galates 2, 20.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Amen. Tu peux lire aussi Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ. Je suis allé trop loin.
Amen. Il dit « pour lequel j'ai renoncé à tout ». Alors, mourir à soi-même, c'est renoncer à sa vie. Et vous voyez, ça rejoint Luc 14. Jésus dit « celui qui veut me suivre doit être prêt à renoncer à sa mère, à son père, à son frère, à sa sœur, en fait, aux êtres qu'il aime le plus, qui ont le plus de valeur pour lui. » Il dit « il faut être prêt à renoncer à cela. » Et l'apôtre Paul dit, « tout ce qui était pour moi, gain, richesse, force, j'ai décidé de renoncer à cela. » Bien-aimés, vous savez, ce sont des choses qu'on connaît, mais lorsqu'on observe dans le milieu chrétien, on observe les attitudes des gens, beaucoup ont du mal à accepter la mort à soi-même. Vous savez, mourir à toi-même, ça va t'amener à quoi ? À ce qu'on se moque de toi. On dit, voilà lui qui est chrétien. Qu'est-ce qu'il a ? Mais vous savez, il y a l'instinct de survie humain qui va vouloir toujours réagir pour prouver que je suis quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai la vérité. Mais bien aimé, vous savez, mourir à soi-même, c'est, tu as la vérité, on se moque de toi, mais tu n'es pas obligé de répondre que j'ai la vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Parfois dans la famille, on va dire, oh, le chrétien. Ah oui, mais moi je suis chrétien parce que Jésus est... Non, mais mourir à soi-même, c'est accepter. On dit, mais regarde le chrétien. Bah, tu n'es pas obligé de répondre. Le brigand à la croix dans Luc 23, le premier qui dit à Jésus, regarde, sauve-toi, sauve-nous. Mais Jésus n'a pas répondu. Jésus n'a pas dit, mais si tu savais quel pouvoir j'ai... Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de répondre. C'est ça, mourir à soi-même, bien-aimé. Paul dit, j'ai renoncé à mon droit. Mourir à soi-même, c'est quoi ? Galates 2.20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est accepter la volonté de Dieu qui s'impose à nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, soyons honnêtes, tels que nous sommes. Est-ce que nous acceptons la volonté de Dieu quand elle se présente à nous ? Après, il y a un autre débat. Oui, mais comment savoir ? Mais bien-aimé, vous savez, on sait. On sait. Quand c'est la volonté de Dieu, tu sais que là, j'aurais dû me taire. Tu sais. Mais maintenant, si tu ne t'es pas tu, repends-toi et l'humilité. Mourir à soi-même, c'est aussi venir voir la personne pour dire, écoute, excuse-moi, tout à l'heure, je me suis emporté, j'aurais pas dû parler comme ça. Bien-aimé, c'est ça, mourir à soi-même. T'exposer aussi au fait que la personne dise, ah ben voilà, hein, t'as vu, hein, je savais. Hein. Je savais, ok, d'accord. C'est accepter ça. Bien-aimé, en devenant chrétien, on doit accepter cette idée-là. Vous savez, ce que j'ai écrit ici, hein, le fonctionnement chrétien aboutit à la mort. C'est ça. Le fonctionnement chrétien aboutit à la mort de soi. C'est ça. Tant que ce principe-là n'est pas appliqué, bien-aimé, le diable a une force. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu 4, qu'est-ce que le diable vient dire à Jésus ? Qui se rappelle ? Matthieu 4 ou Luc 4 ? Quelle est la phrase d'accroche que le diable utilise pour interpeller Jésus ? Oui, j'ai pas entendu ? Alors, pourquoi le diable lui dit ça ? pas que le doute. Pourquoi ? Oui, 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 Manuela, t'attends le micro. Pourquoi le diable lui dit ça ? Le diable aurait pu venir directement et lui faire une proposition. Mais il vient avec une intervention précise.
Pour susciter peut-être l'envie de prouver que si je le suis, etc.
Bien aimé, mais lisons la Bible. Quand on lit la Bible, on doit se poser des questions. Le diable aurait pu venir dire, Jésus, tu as faim, hein ? Regarde les pierres. Transforme-les. Mais ce n'est pas la même chose que toi. Si tu es le fils de Dieu. Bien aimé, vous voyez la croche. Vous savez, je me rappelle, j'avais un collègue quand je travaillais à Évreux. C'était un malin, vicieux, oui, ce n'est pas le terme que je voulais employer. Mais en tout cas, très malin. Et souvent, quand il avait une revendication, il faisait en sorte que les collègues soient avec lui, même si ce n'était pas le cas. En fait, il veut parler pour lui, mais il va dire, on a constaté que, au moins, comme ça, lui, il est pas tout seul, mais en même temps, il embarque tout le monde. Et souvent, quand il venait me voir, puisque moi, je ne marchais pas dans ça, Jean-Luc, bon, je sais que toi, t'es la voix de la sagesse de l'équipe, c'est toi le sage. Bien-aimé, vous savez, quand on te prend comme ça, par les sentiments, je sais que toi, quand tu parles, on t'écoute. Alors, il y a telle situation, qu'est-ce que tu penses ? Donc tu lui réponds, réunion d'équipe, il va dire à la chef, d'ailleurs Jean-Luc est d'accord, en fait sa caution c'est de me prendre moi comme caution. Mais bien aimé, vous voyez, en fait, quand il vient te voir pour te dire, mais toi t'es sage, t'es intelligent, t'es si, t'es... Bien aimé, c'est pour te faire baisser la garde. Comme le jeune homme qui vient voir Jésus dans Luc 18 pour dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire ? Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon ? Tu n'as pas besoin de me flatter pour dire ton problème. Et c'est ce que Dieu nous dit aussi. On n'a pas besoin de faire des belles paroles, des prières poétiques pour parler à Dieu. Dieu, c'est notre papa. Qui va voir son papa pour dire « Oh, comme votre ramage se rapporte à votre plumage, mon père, j'ai besoin de basket. » Mais ça ne marche pas. Et le diable vient voir Jésus pour lui dire « Mais si tu es le fils de Dieu. » Il dit, regarde, ces royaumes-là, ils m'appartiennent. Alors prosterne-toi, je te les donne. Mais bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que le diable, première chose, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher notre faiblesse. Et une fois qu'il a identifié, puisque le diable ne nous connaît pas, il va envoyer des situations. Ça va être la tentation, ça va être les gens qui aiment les belles montres. On a vu comment François Fillon est tombé, hein, parce qu'ils aiment les belles choses. Mais dans l'entourage, vous savez, c'est des requins entre eux, hein, ils se connaissent. On sait que DSK, son problème, c'est les femmes. Tel son problème. Mais bien aimé, le diable ne va pas chercher loin. Hein. Il va te piéger là où est ta faiblesse. Donc, il vient voir Jésus, il tente. Hein. Bon, transforme les pierres en pain. Ça ne marche pas. L'homme ne voit pas de pain seulement, de toute parole. Alors, il dit, bon, regarde, les royaumes. Jésus lui dit, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, regarde, je veux te faire monter. Comme ça, tu vas tomber, les anges vont venir te prendre. Comme ça, tout le monde va parler de toi. On va dire, voilà, un grand. Jésus lui dit, je n'ai pas besoin de ça. Je prends cet exemple pour nous montrer que, bien aimé, refuser de mourir à soi-même fait que le diable va nous attaquer. Vous savez, il y a des gens, nous nous connaissons tels que nous sommes là, hein. Tu sais que j'ai tendance à être impulsif. On le sait. Tu sais qu'au fond de toi que ma langue là, parfois, elle part toute seule. Bon, elle part pas toute seule réellement parce que c'est toi qui l'as fait partir. Tu le sais. Et c'est souvent à ce niveau-là que le diable va venir te titiller. En quelque sorte pour te dire, mais parle, parle, tu ne vas pas te taire. Parle, réponds. Dis quelque chose. Ne te laisse pas faire. Et c'est là que tu fais quelque chose. Ensuite, tu regrettes. C'est ça, bien-aimé. acceptons, bien-aimé, l'idée de mourir à soi. Acceptons l'idée de renoncer à notre vie. En devenant chrétien, on doit avoir cela en tête. Et c'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut venir après moi, ben qu'il soit prêt à prendre sa croix. L'instrument, c'est-à-dire qu'il prend ça volontairement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non, c'est toi-même qui décides volontairement de dire, bon, je sais qu'il y a tel souci, que Dieu m'aide dans cela. Et vous savez, souvent, quand on demande à Dieu, vous savez, Salomon, lorsqu'il a prié pour demander la sagesse, vous vous souvenez, hein, lorsqu'il était à Gabaon, quelle est la réponse que Dieu lui a donnée? Qui peut nous aider quand Salomon a prié pour demander la sagesse à Dieu? Il y a deux types de réponses. Allez, je vais dire autrement. Il y a deux types de réponses. Il y a la réponse directe, mais il y a une autre réponse que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à trouver ça?
Oui. Je crois de mémoire que Dieu lui dit que puisqu'il n'a pas demandé des richesses pour lui-même, il va lui donner non seulement il va avoir la sagesse, mais aussi il va avoir par-dessus, il va avoir tout ce dont il a besoin. Enfin, de mémoire, je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais voilà ce que j'ai retenu.
Ok, là c'est le premier type de réponse, mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, j'ai pas entendu. Quelqu'un a parlé ici? Oui, qu'est-ce qui se passe après? Et vous allez comprendre que c'est le même principe que Dieu utilise avec nous. Bon, je vais répondre. Salomon demande la sagesse. Dieu crée une situation pour qu'il manifeste la sagesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelle est la situation? Voilà. Bien-aimés, comprenons ce principe-là et Dieu fait la même chose avec nous. Salomon demande la sagesse. Dieu met deux femmes qui arrivent. Non, c'est mon enfant. Non, c'est mon enfant. Bon, comment tu vas trancher? Salomon dit, ok, bon, comme on n'arrive pas à les partager, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'ADN hein, comme aujourd'hui. Hein. Il dit, bon, on va couper l'enfant en deux. Comme ça, chacun aura une part. Alors l'autre dit, ah oui, d'accord, comme ça, c'est équitable. En tout cas, vous savez, il y a des spécialistes pour l'équité, hein, pour même pas l'équité, l'égalité, parce que l'équité, c'est autre chose encore. Mais il y a des spécialistes pour l'égalité. Allez, comme ça, c'est égalitaire. Salomon dit, ok, d'accord. Donc, on va donner l'enfant à la maman qui souhaite que l'enfant vive. Bien-aimé, je prends cet exemple-là pour nous montrer quoi? Pour nous dire que souvent nous disons, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre un cas d'école, une situation qui va te mettre hors de toi. C'est comme ça, Dieu fonctionne comme ça, bien-aimé. Ne cherchez pas. Vous savez, quand on était au lycée, tu fais un exercice, souvent l'exercice que le prof donnait, je ne sais pas si pour vous, hein, mais bon, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, l'exercice que le prof donne, bon, il est plus ou moins simple. Mais le jour du contrôle, tu as l'impression que c'est un autre exercice. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça. Tu dis, mais... Oh. Mais il vous dit, mais on a fait ça en cours. Mais en fait, le prof, quand il donne l'exercice, il sait qu'il y en a qui suivent, il y en a qui parlent, il y en a... Mais lui, il dit, dans sa tête, il se dit, je vous aurai. Je vous aurai le jour du contrôle, ça sera le test pratique pour voir qui a compris et qui n'a pas compris. Et bien aimé, vous savez, Dieu... Tu dis, Seigneur, oh, je t'aime, Seigneur, mais donne-moi l'amour. Tu sors là, il pleut comme pas possible. Tu vois ton frère à l'arrêt de bus en hiver. Et là, tu es dans ta voiture, vous savez, tu baisses ta tête comme si tu cherchais un CD. Mais en même temps, tu avances. Hein. Comme ça, lui, il se dit, bon... Il ne m'a pas vu, mais toi, tu l'as vu, mais tu dis, ah, si le regard se croise là, je vais être contraint de le prendre. Pourtant, tu viens de prier, Seigneur, donne-moi l'amour. Bien-aimé, l'amour implique le sacrifice. Je ne sais pas si tout le monde a compris l'exemple, parce qu'il y en a qui me regardent avec des yeux pour dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bien-aimé, c'est pour dire que c'est tu sens des réalités. Tu dis, ah, moi, je vais là-haut. Lui, il habite vers Oissel, vers Elbeuf. Ça fait un détour. Mais tu viens de prier, mais Dieu te met face à une situation, cas d'école, bien-aimé. Vous savez, beaucoup disent, mais pasteur, mais pourquoi je demande l'amour, Dieu ne me donne pas l'amour. Non. Dieu te met face à des situations. C'est que soit tu ne saisis pas, mais j'ai du mal à croire, ou alors tu refuses. Et souvent, on postpone, on ajourne, on repousse, en disant, bon, allez, la prochaine fois. Mais bien-aimé, Dieu ne manque pas de ressources. Hein. Tu pries, lui, il va exaucer ta prière. Mais comment il va exaucer? Puisque quand on prie, donne-moi l'amour, on s'attend à ce qu'il y ait un vent du Saint-Esprit dans ton cœur. Ah, quelque chose qui rentre en toi, qui dit, bon, voilà, maintenant, tu peux aimer tout le monde. Bien-aimé, ça peut arriver, Dieu est tout-puissant, ça peut arriver. Mais Dieu va te mettre devant des cas en face de toi, difficiles. Et là, il va te rappeler pour dire, mais tu as demandé l'amour. Maintenant, pratique l'amour que tu as demandé. Combien n'ont pas fait, Seigneur, tu me donnes cette voiture-là, elle va servir pour ton œuvre. Oh, bien-aimé, nous sommes là, nous voyons. Hein. Combien ont fait des vœux comme ça en disant, c'est... mais bien-aimé, la réalité, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Et c'est ça. Bien-aimé, ce que nous demandons à Dieu, Dieu répond. Mais la question c'est, est-ce que nous acceptons la réponse de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que nous acceptons ça? Ou nous voulons autre chose? Voilà, on va s'arrêter là. Notre premier point, c'était en devenant chrétien, on doit accepter l'idée de mourir à soi-même. L'idée de ne plus exister. Un mort ne réagit plus. Un mort, bon, qu'on le mette en chambre froide, qu'on le mette dans la neige, il réagit plus, il réagit plus, il n'est plus là. Et nous, chrétiens, nous nous retrouvons à réagir. Nous nous retrouvons à dire, mais ce n'est pas parce que je suis chrétien que je vais me laisser faire. Hein. Bien-aimés, acceptons de mourir à nous-mêmes. Acceptons de compter sur la grâce et la justice de Dieu. C'est ça, bien-aimé, l'exhortation. Acceptons que Dieu nous justifie. C'est ça aussi, mourir à soi-même. C'est que tu as raison, mais tu laisses Dieu te justifier. Mais entre-temps, tu passes pour celui qui a tort. Entre-temps, devant tout le monde dit, ah bah oui, c'est lui qui a raison. Mais le jour où tu seras justifié, tout le monde viendra s'excuser pour dire, ah oui, excuse-nous. Et bien aimé, là, c'est plus beau. La gloire de Dieu est manifestée. C'est plus beau que de revendiquer soi-même en disant non, non. Bien aimé, laissons Dieu, bien aimé. Vous savez, Jésus à la croix, comme je disais tout à l'heure, le premier brigand, le brimé, se moquait de lui. Mais il s'est tué, il n'a rien dit. Et c'est le deuxième qui a répondu à son ami en disant, mais crains Dieu. Nous, nous avons ce que nous méritons, mais lui, cet homme, il n'a rien fait. Il se tourne vers Jésus et dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça, bien-aimé, la gloire de Dieu. Alors acceptons cette idée, bien-aimé, de mourir à soi-même. Là où nous avons des choses à renoncer, auxquelles nous devons renoncer, de façon de faire. Devenir chrétien, c'est accepter de passer pour celui qui n'est rien. Mais en réalité, comme Paul dit dans Philippiens 3, afin d'être trouvé en Christ, non pas par ma justice, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Acceptons l'idée de mourir à soi-même et nous verrons la gloire de Dieu. Nous allons continuer. J'avais préparé beaucoup de points, mais par la grâce de Dieu, nous continuerons prochainement et que Dieu nous aide. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce partage que nous avons eu, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à pratiquer, puisque ce sont des choses que nous connaissons déjà. Aide-nous, Seigneur, à les pratiquer, Seigneur. Tu vois combien nous tenons encore, Seigneur, à notre propre vie. Tu vois combien nous ne supportons pas d'être critiqués. Tu vois comment nous réagissons lorsque On entend que nous avons été calomniés. Nous cherchons à nous justifier. Nous cherchons à prouver notre probité, Seigneur, à prouver notre intégrité. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à accepter l'idée de mourir à nous-mêmes, Seigneur, afin que toi, tu puisses vivre en nous. Que ton nom soit béni pour ce temps d'échange, que ton nom soit glorifié pour ton esprit qui agit dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.